France Musique. Étonnez-moi, Benoît.
C'était pour moi l'opérette de l'année, la redécouverte du Diable à Paris de Marcel Lattès, recréée par les frivolités parisiennes au Théâtre de l'Athénée. Et puis patatras, les conditions sanitaires, comme on dit désormais, nous ont privés de ce rendez-vous qu'on va s'efforcer de compenser un peu grâce à la magie de la radio, avec deux des artisans de cette redécouverte, le fin connaisseur de ce répertoire qui est Christophe Mirambeau et le chanteur Denis Minien. Rendez-vous dans quelques minutes dans le Paris des années 20, le temps d'un petit détour par le London des années 30. Is good for anything that ails you. L'amour est un bon remède contre tout ce qui nous fait du mal, pardon. C'est un de ces excellents orchestres de radio qu'on pouvait entendre à la BBC avant la guerre, Orlando et son orchestre. Et tiens, à propos d'orchestre de danse, je voudrais vous donner encore, avant de recevoir mes invités, un petit avant-goût de notre tout proche concert du Nouvel An avec ces filles de Bad de Karel Komzák. Thank you. Badner Medin, c'est le nom de cette valse de Karel Komjak qu'on a entendu par l'orchestre du Volksoper de Vienne sous la direction de Max Schönherr, qui était lui-même un des grands maîtres de la musique viennoise. Il enregistrait alors souvent les valses sans les reprises d'ailleurs, ce qui donne cette version assez courte d'un peu moins de 4 minutes, mais au concert du Nouvel An, vous entendrez cette valse magnifique en entier, elle dure une bonne dizaine de minutes sous la baguette de Riccardo Muti. C'est vraiment un très bon compositeur de musique légère qu'on voit trop rarement au concert du Nouvel An que Karel Komjak, d'origine tchèque, qui a été aussi un musicien de musique militaire avant donc de connaître la gloire à Vienne dans la musique de danse.
Étonnez-moi Benoît. Benoît Dutertre, France Musique.
Et je vous l'ai dit, je me réjouissais d'aller à l'Athénée découvrir Le Diable à Paris, cette opérette de 1927 qui m'intrigue depuis fort longtemps. Et puis le virus qui court en a décidé autrement. Et j'espère que les frivolités parisiennes pourront rattraper bientôt ce rendez-vous manqué. En attendant, j'ai décidé de vous en donner quand même un avant-goût avec mes deux invités, l'historien, musicologue et metteur en scène Christophe Mirambeau et le chanteur Denis Mignat. Bonjour Christophe Mirambeau.
Bonjour Bonne Aliter.
Bonjour Denis Mignat.
Bonjour.
Voilà un souvenir qui nous rapproche tous les trois, parce que je vais vous dire, là c'était enregistré sur la scène sur une des scènes de la Maison de la Radio pour les 20 ans d'Étonnez-moi Benoît, où les frivolités parisiennes avaient fait la joie de venir donner quelques extraits donc de cette opérette Normandie que vous avez mise en scène, Christophe Mirambeau.
Absolument.
Et que vous avez interprété dans le rôle d'un des milliardaires,
Denis
Mignat.
Tout à fait, de Ralph.
Voilà, c'était un beau succès. Hein,
ouais, super, un très chouette spectacle, un très beau souvenir,
très beau souvenir.
Qu'on espère raviver le plus vite possible.
Que vous avez déjà ravivé, hein, il faut dire, parce que ça avait été donné d'abord pour la première fois en redécouverte, si on peut dire, à Compiègne, puis repris à Paris dans un lieu petit mais assez magique qui était la Nouvelle Ève, puis repris en octobre dernier à l'Athénée. C'est déjà une belle carrière pour ce spectacle.
Bah, c'est super, c'est même pas inespéré, mais que des compagnie indépendante puisse développer comme ça des projets de production et les diffuser comme ça, pour nous, interprètes, c'est super, et pour le public, encore plus, pour redécouvrir tout ça.
On avait l'impression, Denis Milhain, qu'il y avait un vrai bonheur, en tout cas partagé sur scène, entre les musiciens d'orchestre qu'on voyait sur le plateau et tous les chanteurs également.
Hein. Bah, c'est l'esprit un peu des frivoles, enfin des frivoles.
La compagnie des frivolités parisiennes.
Parisienne. Il y a une espèce de camaraderie qui se développe, voilà. Et là encore plus, puisque dans la mise en scène de Christophe, l'orchestre était sur scène avec nous, donc il y avait une vraie osmose entre instrumentistes et chanteurs et comédiens, et puis là, la petite tournée qu'on a fait là en septembre-octobre, la reprise puis tournée en septembre-octobre, ouais. Il y avait vraiment cette idée de troupe sur la route, beaucoup de complicité.
En tout cas, moi j'ai adoré ce spectacle, et Christophe Mirambeau, vous êtes venu déjà souvent dans cette émission, je suis heureux de vous revoir aussi, parce que vous êtes derrière toutes ces redécouvertes qui se multiplient fort heureusement, on peut dire, d'opérettes françaises, parisiennes, de comédies musicales parisiennes de l'entre-deux-guerres, c'est un genre presque.
Oui, c'est tout à fait un genre. Finalement, on y trouve de l'opéra comique, de l'opéra bouffe, de l'opérette, et puis on écrivait sur toutes les affiches, en fait, opérette pour le public, pour qu'il sache qu'il allait voir, qu'il a acheté ses places pour un spectacle gay.
Voilà,
et c'est un peu dans les années 50-60, avec l'arrivée de Lopez, que Opérette a tout mis dans un même sac de choses pas forcément de très bon goût ou réussies. Voilà. Mais quand on dit opérette d'entre-deux-guerres, ça signifie de la musique de musicien, de l'opérette de musicien, aussi bien que de l'opérette jazz band ou swing.
Voilà, et là, en l'occurrence, pour Normandie, c'était plutôt jazz band et swing.
Oui,
hein. C'était un pari d'ailleurs que de monter celle-ci, parce qu'il y en a des dizaines, des centaines d'opérettes à cette époque-là, souvent très, très alléchantes par leur sujet, par leur histoire. Et Normandie, bon, c'était pas forcément une des plus connues en son temps, ça a été un vrai succès. Vous avez fait un pari, ou c'est les circonstances, les liens avec les théâtres aussi, qui font que c'est celle-ci que vous avez montée avec tant de succès?
Non, ce n'était pas un pari, c'était un vieux désir, parce que je savais que la pièce était bonne au niveau de la partition et des lyrics.
Voilà.
Je savais qu'il n'y avait rien à jeter musicalement. Je ne possédais qu'un piano chant et je ne savais pas du tout où se trouvait le matériel. Il y avait des problèmes éditoriaux et le livret d'Henri Decoing c'était introuvable. Et puis un jour j'ai rencontré Christophe Misraki, le fils de Paul Misraki, et la première chose que je lui ai dit, c'est où est le matériel? Et voilà.
Et il avait ça dans une armoire, parce que son père était très organisé, on en avait parlé ici. Ça a donc été vraiment une très belle aventure pour les frivolités parisiennes et vous, tous ceux qui ont participé à ce spectacle. Et puis voilà maintenant donc Le Diable à Paris, qui était programmé pour mon plus grand bonheur cet hiver à l'Athénée. Là aussi, vous allez nous dire sans doute dans un instant pourquoi vous avez choisi cette œuvre-là, parce que c'est, là encore, c'est pas forcément la plus connue des années 20. Mais j'ai envie, vous avez parlé de l'opérette des musiciens, justement, et Marcel Lattès, ce compositeur, qui était un disciple et un ami de Messager, autant que de Reynaldo Hahn d'ailleurs, ce qui est assez rare, je crois, était un très fin musicien. Je propose qu'on le voit tout de suite dans ce morceau qui est un blues, hein, parce que les compositeurs de l'époque s'emparent des rythmes à la mode.
Absolument, comme à Broadway et jusque finalement dans les années 50.
Voilà, c'est le blues d'André qui parle évidemment d'amour.
Pourquoi vous occupez-vous de deux femmes à la fois?
Oh, me fous la doux, mais tous les hommes me comprendront, voyons. Dans la vie, on est tenté par deux choses contradictoires, le bonheur et le plaisir. Mais le rêve, c'est de tout concilier.
Et naturellement, fort bien, oui.
Comment excuser ma conduite? Oui, comment expliquer cela? Étant aimé de Marguerite, je ne vis qu'avec parole. Je l'avoue, et quitte à paraître un vilain bonhomme à tes yeux, je suis forcé de reconnaître que je trouve ça délicieux. C'est dégoûtant et c'est immonde, mais en ce bas monde, pourtant, la joie, c'est de vivre ici même, avec la femme qui vous plaît, en se disant qu'ailleurs, il est c'est une autre femme qui vous aime. Et grâce à ce charmant système, le jour où l'on trouve moins bien celle qui vous plut, alors on revient à l'autre femme que l'on aime. Car une femme qui vous aime, ici-bas rien de plus constant. On peut la plaquer 10 ans même, on est sûr qu'elle vous attend. Celle qui vous plaît ne peut de même vous causer le moindre tracas. Elle peut faire tout ce qu'elle aime, on s'en moque, on ne l'aime pas. C'est dégoûtant et c'est immonde, mais en ce bas monde, pourtant, la joie, c'est de vivre ici même, avec la femme qui vous plaît, en se disant qu'ailleurs, il est une autre femme qui vous aime. Et grâce à ce charmant système, le jour où l'on trouve moins bien celle qui vous plut, alors on revient à l'autre femme que l'on aime.
Et c'était la voix de Joseph Perron. Les habitués l'auront reconnu dans cet enregistrement qui existe heureusement du Diable à Paris, réalisé par le service lyrique de la radiodiffusion française de l'époque en 1957. Voilà un document très précieux. On entendra d'ailleurs un autre extrait. J'entends des voix qui me disent déjà que c'est comme toute opérette des années 20 ou beaucoup Christophe Mirbeau. C'est passablement misogyne quand même ces couplets.
Ah, comme toujours, bien entendu. Comme toujours. La femme est un objet de plaisir et de désir. On ne lui a pas encore offert un cerveau.
Oui, voilà, c'est ça. On le sent un petit peu dans ces couplets, dont je ne sais pas s'ils sont d'Albert Villemette ou d'un des autres collaborateurs de l'œuvre, puisque cette œuvre a une histoire très particulière. Elle a été commencée par un célèbre duo de librettistes et achevée avec un troisième.
C'est en effet une espèce de saga que l'histoire de ce Diable à Paris, où se mélange à la fois l'histoire des gens et l'histoire des théâtres parisiens. Parce que le Diable, parce que c'est d'abord le titre initial, est annoncé à la fin de la saison 23-24, dans la presse. On dit que Robert de Flers et Francis de Croisset vont écrire.
Donc, ils sont deux auteurs célèbres qui ont fait déjà des opérettes à succès.
Hein, oui, voilà. On sort de Ciboulette, voilà, là, au Théâtre des Variétés, voilà. Qui est un énorme succès. Et donc, il est dit que la prochaine opérette serait le Diable et qu'elle va donc prendre place sur la scène des Variétés en 24. Et puis, le théâtre des variétés est occupé par autre chose et on se demande comment faire. La Gaîté a proposé pour la saison 25-26 une nouvelle pièce qui s'appelle le Diable vendit son âme de Gaston Jean Nougues, pardon, je les confonds toujours, parce que ça va être une énorme opérette à grand spectacle sur le diable, l'homme qui a vendu son âme, et on peut pas avoir deux sujets à Paris sur le diable. Donc, l'œuvre piétine un peu, et puis c'est Max Derli, la grande vedette des variétés, qui doit être le diable. Donc rien ne se passe, on est un peu dans le mou, et puis en mai 26, il y a tout à coup l'apparition d'un troisième larron dans la pièce. D'abord, la pièce prend son titre qui est Le Diable à Paris. Oui. Et puis on dit que les couplets seront de Rip.
Voilà, qui est un des grands auteurs de l'époque.
Voilà, hein, voilà. Qui est la plus méchante langue que Paris ait portée à ce moment-là. Et en octobre, on annonce que le Théâtre Marigny met en répétition les musicales des ensembles du Diable. Parce que les deux théâtres se divisent et se disputent la propriété de cette pièce, les variétés, ou bien le Marigny. Et alors là... en fait, rien ne se passe parce que on joue Venise de Tiercory Richepin, qui va succéder à une énorme reprise de Ciboulette à Marigny.
Voilà. Et donc, c'est là, finalement, à Marigny, que va être créé Le Diable à Paris. On va y revenir dans un instant. Avec, donc, ce nouvel intervenant, qui est Villemetz, parce qu'il y a la mort également d'un des deux auteurs d'origine.
Voilà. Alors, quand Léon Volterra, qui dirige Marigny, prend la pièce, il dit, bon, c'est pas grave, il y a Venise qui passe. En juillet, vous vous mettez à écrire la comédie, et Villemetz fait les lyrics. Et malheureusement, en juillet 27, Robert de Flers meurt. Et donc, c'est Francis de Croisset qui doit terminer la pièce avec Villemetz. De Croisset est très embarrassé parce que l'idée initiale est de Flers, de devoir terminer cette pièce sans son collaborateur. Et c'est Villemetz qui a un peu la main libre sur le livret et écrit les lyrics.
Et qui écrit en fait la plupart des couplets qu'on entend ce matin.
Absolument, il écrit tous les couplets. Oui.
Et notamment donc cette chanson qui aura un certain succès, qui sera gravée en disque, cette chanson des loups qu'on va entendre tout de suite. C'est un document vraiment de l'époque de la création par la grande Edmé Favard.
Petit chaperon rouge, écoutez-nous.
Non, messieurs les loups, laissez, je vais chez mon époux, qui m'attend depuis un quart d'heure. Je vais chez mon époux, lui prendre sa galette et lui donner mon cœur. Non, messieurs les loups, je vais chez mon époux.
Pourquoi, petit chaperon rouge, avez-vous de si jolis yeux?
Edmé Favard en octobre 1927, donc au moment de la création du Diable à Paris à Marigny, comme vous nous l'avez expliqué, Christophe Mirambeau avec Edmé Favard qui est une grande tête d'affiche hein, de l'époque, c'est une des vedettes les plus connues de l'opérette, notamment après Ciboulette d'ailleurs.
Oui, c'est vraiment une super vedette de l'opérette, ouais, et en plus c'est quand même la tendre amie de Robert de Flers.
Ah oui, ça je savais pas.
Donc ça revêt une double signification pour elle que de créer ce Diable à Paris.
Donc avec Villemetz qui a remplacé, on peut dire d'une certaine façon, Robert de Flers dans la finition de l'œuvre et qui a écrit tous les couplets, et puis avec ce jeune compositeur, encore jeune en tout cas, Marcel Lattès, mais déjà bien lancé, qui signe une très jolie partition dans le genre, on peut dire, de l'opérette à grand spectacle qui commence à s'installer à Paris à ce moment-là. Hein.
C'est-à-dire que comme la pièce a été prévue au départ pour les variétés,
oui.
Quand on examine la pièce, le premier acte est très opéra comique. Oui. Et puis Volterra, qui
parce que c'est grand les variétés,
oui.
Hein, voilà.
C'est très opéra comique, ouais. Très dans le genre Ciboulette, ouais. Parce que ça devait succéder à Ciboulette en quelque sorte. Ouais. C'est pour ça qu'on a finalement le trio du voyage, qui est un hommage à la pièce précédente. Volterra qui prend la pièce, lui, il arrive du Casino de Paris et il a imposé un nouveau style au Marigny qu'il a acheté pour faire l'opéra comique de l'opérette avec des musiciens, avec de l'opérette de compositeurs, mais avec la composante musical. C'est pour ça que de Max Derli, le rôle du diable passe à Dranem. Et donc, du coup, Marcel Lattès n'écrit pas pour Dranem comme il va écrire pour Max Derli, même s'ils sont tous les deux comédiens chantants. Et tout d'un coup, on voit apparaître des girls et on voit apparaître des artistes qui viennent du cinéma, comme Aimé Simon-Gérard, qui était vedette du théâtre chanté, qui passe au cinéma et qui redescend de l'écran pour revenir chanter à Marigny.
Il y a même un groupe de choristes américaines, je crois, les Bluebell Girls
ou... Non, alors il y a les girls qui arrivent en fait du Casino de Paris et qui ont été chorégraphiés par les fameuses Dolly Sisters.
Dolly Sisters, pardon, voilà, c'est ça.
Voilà, et les Dolly Sisters font la chorégraphie. La mise en scène est de Simone Volterra, qui est en fait la femme de Volterra et qui est vraiment une vraie grande dame du théâtre. Les costumes sont d'Antoinette.
Et alors, un mot encore sur ce diable, justement, parce que c'est ça qui est amusant dans la pièce, ce diable donc incarné par Dranem, qu'on va entendre tout de suite, mais qui est donc un diable qui découvre le Paris ou la France des années 20 et qui la trouve tellement immorale qu'il préfère rentrer en enfer. En gros, c'est ça le point de départ de la pièce. Hein.
Oui, c'est tout à fait le pitch qu'en fait de 4 volumes Paris dans les années 1855 qui s'appelait Le Diable à Paris et qui imaginait le diable voyant toutes les modernités du 19e siècle. Eh bien, c'est la même chose, c'était l'idée de Defler, la même chose au 20e siècle avec le diable découvrant le métro, les autos, les Parisiens.
Étant horrifié, mais il a une autre raison de venir à Paris, le diable, c'est qu'il veut fuir sa femme qui est insupportable, qui s'appelle Proserpine, on le sait, et à laquelle il consacre ses couplets. Donc ça, c'est encore la version d'origine de Dranem.
Sur le dos, mon épouse, quel bonheur! Elle ne peut plus m'entendre. Je vais donc enfin pouvoir crier sans peur les jolis mots tendres que j'ai sur le cœur. Proserpine, vieille chipie, vieux hibou, vieille ruine, vieille fouine, vieille toupie, vieux coucou. Proserpine, vieille noix, vieux nougamou. Proserpine, je n'en peux plus d'être ton époux. Quand sans dire un mot, pauvre diable, on a souffert mille et une injures, tortures, blessures, quand toute votre vie n'a été qu'un enfer. C'est bon, je vous le jure, de chanter cet air. Proserpine, vieille chipie, vieux hibou, vieille ruine, vieille fouine, vieille toupie, vieux coucou. Proserpine, vieille noix, vieux merlan mou. Proserpine, je n'en peux plus d'être ton époux. Mais t'imagines pas que te le dire en français, cela me suffise, afin de te montrer à quel point je te hais. Permets que je te le dise aussi en anglais. Pio Zelpine, you sallow witch, you damn cat, stupid goose, lose old louse, chevy shrew, rotten rat. Proserpine, crazy cram, crat, dirty spell. Proserpine, you can shoot on Cotoel. Ah, ça y est. Mais je trouve encore que c'est bien trop charmant. La langue de Shakespeare, rien que pour mon plaisir, permets également. Chérie, de te le dire aussi en allemand. Proserpine, vieille gibie, vieux hibou, vieille ruine, vieille fouine, vieille toupie, vieux gougou. Proserpine, vieille noix, vieux fromage mou. Proserpine, j'en peux plus d'être dans les bouts.
Et voilà, il y en a encore quelques couplets. D'ailleurs, on va entendre la suite par une autre voix dans un instant. C'était donc Dranem, toujours dans la création du Diable à Paris, puisque c'est lui le diable, et c'est donc lui la vedette avec Edmé Favard de ce grand spectacle à Marigny. Et c'est vous aussi, Denis Mignien, qui donc reprenez le rôle du diable. Ça doit être assez amusant, ce rôle écrit, je dirais, sur mesure pour un fantaisiste, donc dans le Diable à Paris.
Hein. Ouais, c'est un plaisir, et c'est toute la difficulté. On en parlait avec Christophe, parce que c'est tellement écrit pour Dranem. Branham, c'est-à-dire pour une espèce de fantaisiste un peu fou.
Qui sait pas vraiment chanter, mais qui joue avec sa façon de pas savoir chanter.
C'est ça.
Justement.
Et donc, c'est vrai qu'à la première lecture du rôle, on se demande vraiment comment est-ce qu'on va aborder ça, parce que ça va du parler-chanter au presque à l'imitation du grand opéra français. Ouais. Et du coup, avec une vocalité d'aujourd'hui, avec les codes d'aujourd'hui, c'est un peu problématique, mais c'est ça qui est jouissif aussi, parce que du coup, vocalement, c'est vraiment amusant à faire, quoi.
Bon, j'imagine que c'est comme quand on interprète, je sais pas, Yvonne Printemps ou Sacha Guitry, il faut surtout pas essayer de faire la même chose, quoi.
Ah, bah, surtout pas, je crois que c'est le piège, et c'est la difficulté, parce que, puis en plus, moi, bon, j'ai grandi dans un foyer où on écoutait beaucoup cette musique-là, j'ai beaucoup écouté ça enfant, moi, Christiné, etc.
C'est rare dans votre génération.
Ben oui, mais j'ai un papa qui aimait beaucoup l'opérette des années 20.
Vous venez du Nord, il faut dire.
Je viens des Hauts-de-France, de Lille,
Une région où on aime encore, dans certains coins, en tout cas, ces belles traditions musicales.
C'est ça, et donc moi, c'est une vocalité que j'ai beaucoup dans l'oreille, et c'est vrai que c'est difficile de s'en détacher, mais aujourd'hui, sans dire que ça n'aurait plus de sens, on fait tellement plus les choses comme ça que ce serait une erreur, effectivement, mais c'est tout l'enjeu, c'est d'adapter des vocalités, d'ailleurs un peu plus opératiques, il y a quand même 33 musiciens en fausse, là, qui nous soutiennent, tout en gardant ce rapport au texte, à l'interprétation, au jeu et à la voix, presque comme un accessoire de jeu, plus que comme une finalité.
On peut dire aussi, alors, Christophe Mirambeau, que Le Diable à Paris, c'est quand même... Vous nous avez expliqué pourquoi, historiquement, avec tous ces différents projets qui finissent par se mélanger. C'est un mélange, justement, un petit peu étrange, où on a à la fois une opérette d'amour, un peu réaliste, et puis de l'autre côté, un élément fantastique avec l'arrivée de ce diable, et puis des éléments de musical, et puis une écriture qui est souvent digne de l'opéra comique. C'est vraiment quelque chose d'assez hétérogène, non ?
Oui, c'est tout à fait ce qui a intéressé les frivolités quand je leur ai proposé l'œuvre.
C'est une revue, presque.
C'est l'hybridation, voilà. C'est-à-dire qu'on est entre l'opéra comique tout à fait traditionnel et en même temps ce que je vais appeler l'opérette anglaise.
Voilà. Qui est très à la mode dans les années 20, forcément.
Très à la mode, surtout depuis 1925, où Nono Nanette a enflammé...
Qui est américain, enfin.
Créé à Londres, d'abord.
Oui.
Contrairement à ce qu'on croit, ça a été créé à Londres. Ouais. Et donc, en France, on a dit c'est de l'opérette anglaise.
Ouais.
Et donc, l'arrivée des girls qui, tout d'un coup, expriment en groupe un sentiment général, c'est quelque chose d'extrêmement nouveau qui enflamme le public et qui fait partie des nouveaux codes qu'on intègre au même titre que dans l'opérette de cette époque. À chaque fois, les danses nouvelles arrivent. Tout d'un coup, le foxtrot, bientôt le tango, après le chimie, en 25, le charleston, et ainsi de suite.
Voilà.
Et bien, pour les codes de représentation et les codes musicaux ou vocaux, c'est la même chose.
Mais aussi avec en fil conducteur une simple histoire d'amour, comme dans toute opérette, entre les deux principaux protagonistes. Finalement.
D'autant que Flers, au départ, avait l'envie de faire une espèce de fausse revue satirique sur l'époque, et l'époque vue par le diable, avec en filigrane une histoire d'amour pour lier le tout, pour en faire un spectacle musical avec une histoire dedans.
Donc, avec une partie également qui se passe en province, hein, dans le
Pays Basque.
Pays Basque.
Et là, d'ailleurs, c'est la première fois, quand même, 20 ans avant Lopez, qu'on entend l'utilisation de rythmes espagnols de ce type-là, un fandango.
Et puis la seconde partie qui est entièrement parisienne, pour le coup.
Parisienne et terriblement musicolesque.
Voilà. On va écouter deux extraits donc d'une répétition de ce spectacle qu'on ne peut malheureusement pas voir à partir de la semaine prochaine au Théâtre de l'Athénée, mais on dira ce qu'il va devenir, parce que vous avez tous beaucoup travaillé déjà, Denis Minière, j'imagine.
Oui,
on était fin prêt,
on était dans les sardines blocs, et c'est vrai que les annonces la semaine dernière nous ont un petit peu coupé l'herbe sous le pied, comme à tout le monde.
Comme à beaucoup d'autres, oui, bien sûr. Ouais.
Donc c'est tout, on prend notre mal en patience en espérant que les quelques dates de tournée prévues à la rentrée pourront avoir lieu.
Alors, on va entendre deux petits extraits. D'abord, Julie Mosset dans Intuition. Donc, ça, c'est le rôle...
De Paola de Valpurgis.
Voilà.
La maîtresse d'André, l'un des principaux protagonistes.
Voilà. De Valpurgis, parce qu'il faut dire qu'en plus, ce diable qui arrive à Paris en 1927, en réalité, il était rentré chez lui
avec Gounod.
À l'époque de Faust, de Gounod, et donc de la nuit de Valpurgis, etc. Il y a plein d'allusions comme ça.
Oui, tout est référencé.
Voilà. Donc c'est l'air de Paola de Valpurgis et ensuite la suite de Proserpine avec vous-même Denis Minien et donc toujours l'orchestre des frivolités parisiennes.
Je me doutais bien que tu m'avais quittée. mieux, non pas pour quelqu'un, mais bien pour quelque chose. J'avais pressenti qu'un motif sérieux devait en effet t'obliger en silence. Ce que tu m'as dit, c'est très curieux. Je l'avais prévu, je le savais d'avance.
Être un peu gnolle pour te dire ce que je pense, ce que je pense, ce que je pense, ça n'est pas assez pour me fiche de ta fiole. Il faut que je te le danse comme un espagnol.
Ben voilà l'exemple de Denis Mignien d'un air, justement ce Proserpine dont on vient d'entendre la fin, qui est à la fois un numéro de musical, une chanson et un air d'opérette, si vous voulez.
Ah bah c'est, oui, c'est tout à la fois. C'est effectivement un texte à défendre qui n'est pas piqué des hannetons en trois langues, hein, en trois langues et une quatrième dansée. Voilà. D'ailleurs, je salue le travail de Caroline Roland qui signe des chorégraphies complètement folles et alléchantes. Et puis tout le travail qu'a fait Édouard Signolet à la mise en scène.
Voilà, qui est metteur en scène.
Ouais, sur ce.
Il faut vraiment le souligner.
C'est ça qui est complètement qui nous emmène vraiment dans le côté entre guillemets un peu démentiel de cette opérette dans cette folie et qui permet justement du coup de se jeter là-dedans dans cette espèce de mix un peu étrange et d'aller chercher des éléments un peu partout dans le jeu et dans la voix et dans le corps pour aborder ça qui à chaque fois c'est une palette sur 3 minutes ou 4 minutes, c'est une palette incroyable de choses à aller chercher, donc on a des guides là, on a des bergers qui étaient bien adaptés pour nous emmener dans cette opérette foisonnante.
En l'occurrence, Christophe Mirambeau, là vous êtes conseiller artistique de la production alors que dans Normandie vous étiez le metteur en scène, mais je vois que vous approuvez le travail de votre collègue.
C'est un travail formidable, vraiment je suis très admiratif et Édouard Signolet a vraiment travaillé comme un dieu, c'est intelligent, inventif, c'est juste par rapport à la pièce et ça respecte l'esprit.
Bon, et là, on entendait à l'instant, dans cette fin de Proserpine, danser justement des arrangements très, très joliment sophistiqués. Mais est-ce qu'on a en fait les arrangements originaux de Marcel Lattès ou pas ?
Non, le matériel d'orchestre a été perdu par l'éditeur il y a fort longtemps.
L'orchestration plutôt que les arrangements.
Et donc c'est Jean Ivezic qui a restauré l'orchestration. Nous avons beaucoup discuté de ça ensemble, évidemment, parce que j'avais un œil avec lui toujours sur ce qui était fait. Le code est André Messager, hein, puisque d'abord, en plus, l'œuvre lui est dédiée, et cette œuvre est dédiée à André Messager.
Elle lui est dédiée.
Elle lui est dédiée. Ouais. Le code d'orchestration, c'est évidemment les systèmes d'orchestration d'André Messager, hybridés, bien entendu, du jazz et de l'opérette anglaise. Et Jean-Yves Zic a fait une restauration démentiellement juste pour 33 musiciens et dans le style et qui rend un hommage absolu au talent d'orchestration de Marcel Lattès.
Et j'ai remarqué que chaque fois qu'on écoute du Lattès, hein, il y a toujours cette couleur un peu messager justement dans les harmonies, dans la tournure, dans le soin, dans l'élégance d'allure assez simple, mais sophistiquée, en fait. Finalement.
Oui, absolument, parce que Messager, quand il donnait des...
C'était son maître. Hein,
oui,
vraiment.
Quand il donnait des cours, en fait, c'était des cours un peu... c'est plutôt une discussion autour d'un thé, autour d'une partition, c'est pas des cours en chaire. Et donc, il avait Marcel Lattès sous son aile, parce qu'il l'a connu assez jeune, via, en fait, la surface sociale du père de Marcel Lattès, qui était actionnaire de l'Opéra Comique. Et donc,
ah oui,
voilà, le rapport à Albert Carré est directement, en 1903-1905, à André Messager. Qui donc, et c'est Messager qui a proposé à Flers et de Croisset de prendre Lattès comme compositeur.
Voilà.
C'est pour ça que Lattès a été le compositeur du Diable à Paris pour la nouvelle opérette.
Il a vraiment été donc soutenu
vraiment,
par son maître.
Vraiment, c'est un mentor. Hein. Et voilà. Il y a eu une passation de baguette de chef, la baguette de Véronique, le Messager, il lui a offert à la première de Nelly à Mogador en 21.
Alors justement, pour goûter, j'ai envie de dire, c'est cet art musical de Marcel Lattès, on va écouter maintenant, toujours dans l'enregistrement de la radio de 1957, ce duo des souvenirs qui se trouve à la fin de la pièce, qui est un très joli morceau, n'est-ce pas, hein?
Vous êtes d'accord? Qui est vraiment une très très belle page de l'opérette, très simple, c'est hiératique et en même temps c'est extrêmement élégant et extrêmement touchant.
Et ouais. Ce sont donc les deux amoureux qui ont servi un peu de fil
c'est
conducteur
ça, André
à toute la pièce.
Et Marguerite. Ah, puisque, bien entendu, l'héroïne s'appelle Marguerite.
Et à la fin, on entendra en plus la voix, ça ne parlera qu'aux très vieilles personnes, mais de Jean Toscane, qui était un des présentateurs vedettes de la radio de l'époque.
J'ai oublié le beau matin où pour vous j'ai sauté du train.
J'ai oublié le 708 dont à 6 heures vous descendîtes.
J'ai oublié le quai Fleury de la gare de Guétari.
J'ai oublié ses roses blanches, ses liserons et ses pervenches.
J'ai oublié les petits veaux pas loin du passage à niveau.
J'ai oublié ma maisonnette et le tintin de sa sonnette.
J'ai oublié le ruban bleu que vous aviez dans les cheveux.
J'ai oublié la perle grise qui boutonnait votre chemise.
C'est très curieux tout le passé. C'est aboli, c'est effacé.
C'est fini, je ne me rappelle jamais ces minutes si belles.
Non, ce ne sont pas des histoires, vous voyez bien, vous voyez bien. J'ai beau chercher dans ma mémoire, je ne me souviens plus de rien.
Je ne me souviens plus du tout de chacun de nos rendez-vous.
Je n'ai plus souvenance aucune de nos promenades au clair de lune.
J'ai oublié totalement tous nos baisers, tous nos serments.
J'ai oublié vos gentillesses, vos abandons et vos caresses.
Et le joli sentier perdu qui n'était pas de la vertu.
Le petit bois plein de ressources, avec son gazon et sa source.
J'ai oublié tous vos doigts fous qui se posaient je ne sais où.
Et moi, les privautés exquises que cent fois vous m'aviez permises.
Pardonnez-moi, j'ai oublié la façon dont vous m'adoriez.
Et la douceur et le délice de nos deux lèvres qui s'unissent. Non, ce ne sont pas des histoires, vous voyez bien, vous voyez bien. J'ai beau chercher dans ma mémoire, je ne me souviens plus de rien, de rien, de rien.
À force de ne se souvenir de rien, André et Marguerite ont fini par oublier le monde entier. et par tomber dans les bras l'un de l'autre. Mais attention, la soirée se corse.
Ah, il était merveilleux, Jean Toscane, grand présentateur de la radio des années 50 notamment, et présent dans beaucoup de ses archives d'opérettes. Là, c'était donc ce duo final, on peut dire presque, du Diable à Paris. Très jolie page de musique signée Marcel Lattès. D'ailleurs, on va revenir dans un instant à Marcel Lattès, mais je voudrais d'abord vous demander, Denis Mignien, je vois qu'au fil des ans, hein, vous avez commencé par étudier la musique sous toutes ses formes, et vous êtes vraiment beaucoup orienté ces dernières années, par goût en partie, j'imagine, peut-être aussi en fonction des rencontres, vers ce répertoire d'opérettes, d'opéra comique, de comédie musicale.
Oui, c'est une question de goût personnel, c'est une question d'aptitude aussi, j'imagine. Ouais. C'est quelque chose que j'aime bien, parce qu'effectivement, ce qui me plaît beaucoup, c'est de défendre des personnages, moi, je voulais être comédien. Je pensais
pas être.
On peut
faire plus de théâtre.
Je pensais pas être chanteur. Hein. J'ai raté ma vie en fait. Hein. Je voulais être comédien. J'ai complètement raté mon truc. Mais j'étais très attiré par le théâtre et le chant est venu se greffer là-dessus un petit peu, pas par hasard parce que j'étais en conservatoire, donc ça tombait sous le sens. Et c'est vrai que tout ce répertoire d'opérette
qui mêle le parler et le chanter, c'est ça. Idéal pour
moi, me plaît énormément. Et effectivement, il y a eu une rencontre avec la comédie musicale de façon un petit peu. L'année dernière, j'étais dans cette production du Violon sur le Toit à l'Opéra de Strasbourg, qui a été un truc absolument fabuleux dans mon parcours. Et puis, il y a quelques années, après 3 essais infructueux d'audition aux frivolités parisiennes, ils ont fini par se dire, tiens, on va lui donner quelque chose. Ils cherchaient un milliardaire un peu rondouillard, ils m'ont trouvé. Et mon physique ça m'a sans doute aidé.
J'étais un des 3 milliardaires, donc sur le paquebot Normandie.
Celui qui devait maigrir, dans Normandie. Celui qui se faisait shippé sa fille par son professeur de sport. Et du coup, il y a un petit parcours avec les frivolités qui se dessinent. Il y a 3 productions déjà ou 4 qu'on a fait ensemble avec les frivaux. Et puis moi, j'ai une compagnie aussi à Lille avec laquelle je travaille, avec qui j'avais monté un DD, avec qui j'ai monté du Offenbach, etc. C'est venu par Offenbach aussi, par goût, par aussi comme je disais, par les disques que j'écoutais enfant à la maison. C'est aussi bête que ça. On prend les CD et les galettes qu'il y a dans la discothèque familiale. Et puis
vous allez peut-être pouvoir, à travers toutes ces expériences, redonner un petit peu un sens justement à ce métier très particulier sur les scènes de l'époque, qui était celui de fantaisiste.
Alors ouais, moi finalement c'est là que je me
fantaisiste qui était généralement plutôt un comédien ou un chanteur de variété qui venait faire de l'opéra, ce qui est pas votre cas puisque vous avez une formation très classique.
Et puis c'est-à-dire que je peux chanter aussi bien Barbe Bleue d'Offenbach qui demande là pour le coup d'être vocalement aguerri que effectivement de reprendre des rôles à la Dranem je trouve que ce qui est intéressant c'est que la voix en fait c'est un instrument tellement polymorphe que ce qui est hyper intéressant à mon niveau c'est me glisser dans ces différentes possibilités vocales, c'est-à-dire cette vocalité de comédie musicale presque à l'américaine quand je fais du boc, etc. Pour le violon, à quelque chose d'extrêmement classique quand je vais chez Reynaldo Hahn ou quand je vais chez Offenbach.
Alors j'imagine aussi, vous avez parlé juste avant de Dédé, avec Wilmette, qui est l'auteur, tout comme celui des lyrics donc du Diable à Paris, peut-être une gourmandise particulière à chanter les mots de Wilmette.
Ouais, c'est assez. Il y a un art du jeu de mots, il y a un art du sous-entendu. Quand on met le nez un petit peu, moi quand j'avais monté le DD en plongeant dans le livret et Christophe me contredira pas, c'est souvent très graveleux en fin de compte. Le sous-texte est souvent un peu comme ça en dessous de la ceinture. Il y avait quelque chose aussi comme ça. Toujours avec une forme d'élégance, justement, parce qu'il y a cet art du jeu de mots, cet art du sous-entendu qui peut être périlleux, parce que quand c'est galvaudé, quand on veut y aller et faire un petit peu trop entendre le sous-texte, d'un coup, ça perd toute la saveur et ça perd toute la classe Christophe utilise beaucoup le qualificatif de chic. Et faut garder ce chic dans la musique.
Et dans l'esprit. Pour bien réussir dans la chaussure, il y a du sous-texte.
Ah, c'est plus que du sous-texte. On m'avait demandé 2-3 extraits. Et ce qui m'amuse, c'est qu'il y a des phrases de Wilmette dans Pour bien réussir dans la chaussure qui sont reprises dans l'air des bijoutiers, là, dans Le Diable. Dans carrément, il se cite mot au mot le mot, justement, sur cette obsession des grands magasins, de la modernité, de tout est accessible, etc. Et là, oui, c'est plus que du sous-texte. On parlait de machisme, en tout cas. Voilà, on est en plein dedans, là.
Chaussures portées tout simplement, un corsage dont les chancrures laissent voir des trésors charmants. Le client qui plonge dans l'ouverture grisée dira: ça y est, c'est tout à fait ma pointure, c'est exactement la forme qui me plaît. De ce qu'un vain peuple pense, la souplesse du veau, du poulain, du chevreau, l'annonce est à faire aucune importance. Loin des réclames tapageuses pour vanter des souliers, si la vendeuse est capiteuse et connaît son métier. Et c'est pourquoi j'ose prétendre, croyez-moi, que souvent, à Paris, la façon de vendre vaut bien mieux que ce qu'on vend. Pour bien réussir dans la chaussure, portez tout simplement un corsage dont les chancrures laissent voir des trésors charmants. Le client qui plonge dans l'ouverture grise et dira: ça y est, c'est tout à fait ma pointure, c'est exactement la forme qui me plaît. Dans la chaussure, portez tout simplement un corsage dont les chancrures laissent voir des trésors charmants. Le client qui plonge dans l'ouverture grisée dira: ça y est, c'est tout à fait ma pointure, c'est exactement la forme qui me plaît. Le client qui plonge dans l'ouverture grisée dira: ça y est, c'est tout à fait ma pointure, c'est exactement la forme qui me plaît.
Pour bien réussir dans la chaussure, voilà, vous savez tout. Et c'était donc Albert Préjean dans cette version de Dédé de Christinet et Villemettes. Villemettes, on peut dire le seul auteur dans l'histoire de l'art lyrique et notamment de l'opérette qui a laissé une marque encore plus importante que les compositeurs. C'est un cas unique, Christophe Mirambeau.
C'est-à-dire qu'il a laissé
Villemettes, quasiment.
Il a laissé un style d'écriture, un type d'écriture
mais
d'abord
qui a marqué toute une époque.
Et il a vraiment marqué 50 ans du théâtre musical français et du cinéma aussi à cause des chansons de cinéma.
Voilà, c'est ça.
Et une façon d'écrire.
Et donc, il rencontre Marcel Lattès à l'occasion du Diable à Paris, ou ils ont déjà travaillé ensemble ?
Non, ils n'ont pas encore travaillé ensemble, même si Lattès a fait une ou deux chansons pour une des revues de Marigny, mais ils n'ont pas encore travaillé ensemble. Peut-être que Villemettes le connaissait à cause des Messagers, parce que ce qui va succéder au Diable à Paris...
À Marigny, d'ailleurs.
Oui, à Marigny, ça va être la création de Coup de Roulis.
Avec le livret, donc, de Villemettes.
Et livret lyrique de Villemettes.
Et la musique
de Maître Messager. Donc, forcément, ils se sont forcément croisés.
Alors, Marcel Lattès, je voudrais qu'on revienne un tout petit peu sur ce musicien très doué au destin tragique. On sait, on en a déjà parlé en tout cas ici, puisqu'il est mort à Auschwitz en 1943. Il a été arrêté d'ailleurs deux fois pendant la guerre, une première fois relâché et une deuxième fois finalement déporté. Et puis, donc, il est mort relativement jeune, mais après avoir laissé une œuvre marquante, même s'il n'a jamais connu le très grand succès, j'ai l'impression, Christophe Mirambeau, dans les années 20-30.
Il a commencé finalement sa carrière avant la Première Guerre. Il a toujours eu des très très gros succès d'estime, via la critique, via ses collègues compositeurs.
Parce qu'il écrivait
très
bien.
Il a fait un énorme succès au Bouffe quand même avec Arsène Lupin, banquier, même si ça n'est pas resté très longtemps à l'affiche, hein, comme très souvent, ce sont des opérettes de consommation courante, comme je dis. Et donc, premier rôle important après Flossy de Jean Gabin, qui l'année d'après va être rapté par le nouveau cinéma parlant. Et puis en 31, quand la Paramount ouvre la Paramount France, c'est Marcel Lattès qui est engagé pour la supervision musicale des studios, et il devient très vite compositeur de films.
Voilà, il va en faire beaucoup,
et il en fait
jusqu'à
beaucoup, sa mort, jusqu'en
39,
et il signe des choses comme Lucrèce Borgia pour Gans, mais aussi en tant que Cordial en 39.
Il travaille même avec Carlos Gardel.
Et avec Carlos Gardel, Melodia de Arrabal. Donc il écrit beaucoup, beaucoup de musique de film. Il écrit quand même Pour ton bonheur, une opérette, en 35, qui est un vrai joli objet aussi.
Et on peut rappeler donc que pendant la guerre, il se fera arrêter une première fois parce qu'il est juif. Et finalement, grâce au soutien de ses amis, il sera relâché. Mais il était un petit peu, peut-être ne mesurait-il pas le danger qu'il courait. Il a été un peu désinvolte et il s'est fait finalement arrêter à nouveau.
Oui, c'est-à-dire que lui, la famille Lattès a quitté la France pendant l'occupation, en fait, après l'invasion, et lui n'a pas rejoint sa famille. Il a rejoint sa famille à Nice, puisque la famille était de Nice. Et puis il a dit non, mais ma vie, elle est à Paris. Voilà. Et donc il a essayé. Il est un des rares à avoir obtenu, en tant que juif, le droit de travailler, parce qu'il a eu des tas de lettres de Colette, de Sacha Guitry, de la terre entière. Et puis il s'est fait arrêter après. C'était un homme, un grand séducteur, un homme à femme. Il s'est fait arrêter après avoir provoqué un nazi en duel qui lorgnait un peu trop sur sa compagne.
Oui, c'est ça. Voilà.
Et donc et c'est comme ça qu'il a été raflé le lendemain après une soirée chez Maxime un peu compliquée.
Voilà, et donc il mourra de cette façon tragique, mais effectivement, il laisse une œuvre avec de très jolies opérettes. J'y reviendrai d'ailleurs au début de l'année prochaine, parce qu'on fêtera les 100 ans de Nelly, une de ses premières opérettes à succès qui est ravissante. Mais vous nous avez apporté un extrait alors d'une autre œuvre, qui le son n'est pas extraordinaire, mais ça me fascine, parce que je ne connaissais aucun extrait 78 tours de cette opérette, Xanto et les courtisanes, même sur le grand site spécialisé de Jacques Gana, il n'y a pas une trace de disque, et vous en avez trouvé.
Alors, grâce à l'arrière-petit-fils de Marcel Lattès, Alexandre Lattès, qui m'a communiqué des faces d'un disque Choudens qui n'est jamais sorti. Peut-être n'est-il jamais sorti parce que l'orchestre est très derrière. Mais ça nous permet d'entendre ces jolies pages pour le Tête des Nouveautés avec Gabriel Ristori, avec Fred Pizzella.
Et c'était quoi, Xanto et les courtisanes?
D'après une comédie de Richepin, réécrite pour la comédie musicale par Jean Richepin, son fils. Et c'est un des gros succès des Bouffes de 1912. Évidemment, c'est une opérette antiquisante qui mettait aussi en scène Arletty.
Voilà, et puis cet air que j'ai trouvé assez joli sur l'imprévu.
Ah, oh, ravissant.
Dans la vie, les plaisirs qu'on attend souvent longtemps sont-ils ceux qu'on préfère? Non, ce qui toujours nous a séduit, c'est le mystère et l'inédit. Et dans l'amour, en dépit des usages, ce qui nous tente et nous plaît davantage, c'est l'imprévu, l'aventure aux pays inconnus. C'est l'imprévu, le départ pour le rêve entrevu. Je t'ignorais, il n'y a pas une heure encore. Une heure après, voilà que je t'adore. C'est l'imprévu, tous les deux, on ne s'est jamais vu. C'est l'imprévu, on croirait que l'on s'est reconnu. Tendre surprise, brusque et moi qui nous brise. heures, c'est l'imprévu, l'aventure aux pays inconnus. Le désir que parfois pour un soir, on crut avoir, c'est un rêve qui dure. Dans les premiers temps, on a souri de l'aventure, mais on est pris. On avait cru se passer une envie, on s'aperçoit qu'on s'aime pour la vie. C'est l'imprévu, le roman malgré vous continue. C'est l'imprévu, les remords, la pudeur s'atténue. Baisers, soupirs, minutes de folie. Dans le plaisir, tout s'efface et s'oublie. C'est l'imprévu, c'est à deux, le bonheur est perdu. C'est l'imprévu, l'idéal si longtemps attendu. Rêve suprême, rêvé par ceux qui s'aiment. On est vaincu par l'amour éternel imprévu. Rêve suprême, rêvé par ceux qui s'aiment, on est vaincu par l'amour éternel imprévu.
L'imprévu, extrait de Xanto et les courtisanes, c'est pas du Villemette, cela, donc Christophe Mirambeau.
Non, pas du tout.
Voilà, avec la voix de Pizzella, cette opérette qu'on redécouvrira peut-être un jour après le Diable à Paris. Mais alors, vous avez, Christophe Mirambeau, vous, il faut dire aussi une autre actualité en ce moment, parce que vous avez vous-même écrit une comédie musicale avec un musicien, qu'on peut citer.
Oui, avec Antoine Lefort, en effet.
Et qui est également annulé.
Qui est également annulé. Et qu'on espère donc jouer la saison prochaine.
Ça devait être donné où et quand?
Ben ça devait être donné parce que c'est une coproduction de la Clé des Champs avec la Comédie de Picardie et on devait
être à Amiens
cette semaine. Voilà. Et jouer à la Comédie de Picardie.
Voilà, c'est donc, triste.
Donc tous nos comédiens étaient absolument attristés, désolés parce qu'on avait commencé à répéter, qu'on était très contents des musicales. Parce que c'est une pièce très difficile parce qu'elle est intégralement chantée.
Voilà, c'est pas justement l'alternance du parler et du chanter comme traditionnellement dans ce genre.
Oui, je voulais revenir à la comédie musicale à la française, c'est-à-dire celle développée justement par Messager au fond.
Comédie lyrique.
La comédie lyrique où tout est chanté, y compris les passages dialogués.
Ça s'appelle Fan de Chichoun. On va pas entrer dans les détails, mais on en reparlera quand vous allez peut-être enfin la présenter. Mais c'est donc une histoire très amusante parce que ça mélange
une uchronie,
une histoire vraie d'une grande diva berlinoise qui s'appelait Rita Georg. Hein.
Oui, c'est l'histoire de Rita Georg qui était la vedette du Théâtre de l'Empire en 1933, théâtre racheté par le célèbre Alexandre Stavisky.
Qui sera assassiné, homme à scandale, escroc notoire de l'entre-deux-guerres.
Escroc absolu, qui s'était offert l'Empire et qui avait invité comme divette absolue de son théâtre, Rita Georg, qui avait créé Erzogin von Chicago, Blume von Hawaii, qui était une grande divette juive.
Installée donc à Paris.
Voilà, est venue à Paris en 1933. Et donc, à l'occasion d'une de ses créations, où il y a une semaine d'interruption parce que le dessous de fleurs demandé à Ralph Benatsky par Stavisky ne marche pas, j'ai imaginé que Stavisky obligeait son directeur à l'Empire à créer une opérette marseillaise parce que c'est le genre qui marche. Et c'est vrai, historiquement vrai, c'est le grand succès de la chanson marseillaise à ce moment-là. Et il oblige Rita Georg à prendre une opérette marseillaise qu'il demande à Marcel Pagnol, qui fait un ménage parce qu'il a dépensé beaucoup d'argent pour son studio à Paris et son studio à Marseille et qui veut bien écrire un scénario avec un compositeur qui n'est pas Scotto parce qu'il n'est pas libre puisqu'il est en train de faire Trois de la Marine.
Voilà, alors justement, on va écouter tout de suite un petit extrait de vos répétitions encore. Hein. C'est la rencontre justement entre Rita Georg ou Georg, je ne sais pas comment on fait.
Alors à Paris, on l'appelle s'appelle Georges, à Paris, son vrai nom c'est Georg.
Et Marcel Pagnol pour écrire cette opérette mi-berlinoise, mi-marseillaise pour le théâtre de l'Empire.
Mademoiselle Georges.
Georg, Rita Georg, mais vous pouvez m'appeler Rita.
Pagnol, Marcel Pagnol, mais vous pouvez m'appeler Pagnol.
Comme je suis contente, vous allez écrire pour moi.
On le dit.
Mais je dois avouer que je n'ai pas encore eu l'occasion d'applaudir l'une de vos opérettes.
C'est bien normal. Je n'en ai pas encore écrit.
Ah, c'est donc votre Taufer, votre première fois.
Voilà.
Oh, mais quelle chance! Je serai votre guide et votre muse. Bereitet zur Spätung Nacht und Wind. On a beaucoup écrit pour moi. Tsarevitch,
Rita,
Herzogin von Chicago,
s'il te plaît,
Blume von Hawaii.
Splendid.
Mais je me connais très bien, je pourrais vous aider.
Ah, vous avez donc déjà fait dans l'opérette marseillaise.
Anglaise, viennoise, marseillaise, hongroise. Oh, quelle différence, cher Pagnol, je peux tout jouer, tout chanter.
C'est rassurant.
Et oui, Marseillaise, ça me change. Mais dites-moi, existe-t-il des opérettes niçoises?
Oh, sans doute. Comme la salade.
Voilà donc un extrait de Fan de Chichoun, livret de Christophe Mirambeau, musique d'Antoine Lefort. Hein. Bon, évidemment, là, c'est juste en version de travail, mais c'est très, très alléchant. Et ce sera. Alors, je vois qu'évidemment, les représentations de décembre sont annulées, mais j'en vois déjà fin janvier à Béziers, puis en février à La Ciotat et à Cray. Est-ce voilà, que ça,
malheureusement,
va se faire normalement?
Elles ne vont pas avoir lieu. Alors, puisqu'on n'a pas pu répéter pour voilà. La comédie de Picardie.
Bon, alors vous nous direz dès que ça reprend. Hein, pour
absolument,
qu'on en
vous comptez sur moi.
Et puis, donc, Denis Mignien, vous, de votre côté, vous avez quelques horizons pour...
Moi, je serai à l'atelier lyrique de Tourcoing, notamment en avril-mai, dans du Purcell.
Ah voilà,
on change complètement mais dans lequel je vais surtout jouer la comédie d'ailleurs, c'est assez rigolo. Et puis saison prochaine, une création contemporaine totalement qui s'appelle Terre Rare avec une compagnie qui s'appelle Éolie Songe à Lille, donc une création de Laurent Durupt à la musique. Voilà.
Et on peut peut-être espérer que le Diable à Paris soit repris dans les mois qui viennent.
Dieu
on
vous entend, j'ai envie de dire.
Bon, Rita Georg m'a donné envie, tiens, de terminer cet entretien avec un compositeur que j'adore, de langue allemande, d'entre les deux guerres, de cette même génération que Marcel Lattès, c'était Paul Abraham. Vous l'aimez, Christophe Mirambeau?
J'en raffole parce que il est le type de l'hybridation l'opérette austro-hongroise avec le jazz américain, et où tout d'un coup on n'est plus sous la dictature de la valse, et on est.
Il est d'ailleurs passé par Paris aussi.
Il est aussi passé
fuyant,
par Paris.
Le nazisme.
Et avant de partir aux États-Unis, où il a eu quelques difficultés en revanche à s'adapter. Mais c'est le compositeur du jazz germanique, si je puis dire. Notamment sa Duchesse de Chicago, Herzogin von Chicago, est une grande pièce formidable sur la bataille entre la valse viennoise et le jazz américain.
Voilà, et là on va écouter un extrait de Balim Savoy dans la version d'origine enregistrée dans les années 30, c'est avec du français, parce que voilà, en français dans le texte, on reconnaîtra, dès qu'il est question d'amour, ça se dit forcément en français. Merci à tous les deux, et j'espère à bientôt.
Merci Benoît.
Merci.
Ich war denn toll, wie jede Frau, das ist vorbei, nun bin ich frei, die Liebe. Die Liebe kommt, die Liebe geht, für einen Kuss ist nie zu spät. Ich will mein Herz.
avezan. Romanen ur plüstisch gelesen.
Gita Alpar en 1932 dans Bal im Savoy de Paul Abraham. Voilà une façon de saluer et de remercier mes deux invités aujourd'hui, Christophe Mirambeau et Denis Mignat, qui sont venus nous parler du diable à Paris. Et voilà un morceau de saison puisque ça s'intitule L'Arbre de Noël. C'était le compositeur David Rose et son orchestre en 1959.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et d'ailleurs, à propos d'Arbre de Noël, si vous ne savez pas quoi mettre dans les souliers, je vous recommande beaucoup le nouveau et magnifique album de mon ami Sampé, dessinateur, humoriste et poète hors pair, avec tout un choix de nouveaux dessins en noir et blanc ou en couleur. Ça a un titre tout à fait à la Sampé, ça s'appelle « Gardez le cap ». Et vous le savez, en outre, le grand Sampé est un fin mélomane habitué de cette émission où il est venu souvent nous parler de ses chers Ray Ventura, Duke Ellington, Georges Ulmer, Henri Salvador, Paul Misraki, ou encore cette chanson qu'il adore, c'est Verlaine par Charles Trenet.
Thank you.
les sanglots longs des violons de l'automne bercent mon cœur d'une langueur monotone. Tout suffocant et blême quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ci, de là, pareil à la feuille morte. Là vient de la ville. Et je m'en vais.
Et c'était donc Verlaine, cette merveilleuse chanson de Charles Trenet, avec le solo de trompette d'Aimé Barelli, qui est, je crois, est le passage particulièrement cher à Jean-Jacques Sempé. Sempé qui vient donc de publier ce magnifique album intitulé Gardez le cap aux éditions de Noël. Et puis tiens, puisqu'on finit avec des chefs-d'œuvre, c'en est un autre que je vous propose et dont j'ai déjà passé des extraits, mais jamais l'intégralité. Les magnifiques huit danses exotiques peu connues, trop peu connues de Jean Français. Une œuvre pour deux pianos que interprète le compositeur Jean Français avec sa fille Claude. Thank you. oui, Jean Français n'était pas seulement un grand compositeur, mais un merveilleux pianiste, et c'est lui qu'on entend ici, donc en duo avec sa fille Claude Français, qui a été aussi une de ses grandes interprètes, dans ces 8 danses exotiques que je tiens pour un petit chef-d'œuvre et qui date de l'année 1957. Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Dutertre préparée par Annie Comier, avec aujourd'hui à la technique Xavier Hatteau, Maïwenn Le Jehan, réalisation Christine Amado. Et la semaine prochaine, eh bien, on rendra hommage à l'ami Piem, le dessinateur qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps et que j'avais reçu dans Étonnez-moi Benoît. Ne ratez pas donc cette émission de Noël. Et puis vous avez rendez-vous maintenant sur France Musique avec Sébastien Linares.
À réécouter sur francemusique.fr.